With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cette émission est parrainée par Radioline, l'appli aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis le site radioline.co.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme tous les ans, ne peut pas s'empêcher, malgré ses réticences ô combien souvent justifiées, de guetter vers le sud-est de notre beau pays pour sentir un peu des effluves canoises qui inondent à cette période de l'année la cinéphilie mondiale. Alors certes, nous avons pour une fois dépêché sur place une bande de joyeux margoulins que vous retrouvez quasi quotidiennement pour suivre le festival dans le détail. On pourrait donc faire comme si de rien n'était, sauf qu'il se trouve que c'est à Cannes qu'est montré, en plus d'être diffusé sur quelques canaux, la nouvelle saison de Twin Peaks, en tout cas les premiers épisodes, l'œuvre télévisuelle majeure de David Lynch, dont la filmographie est sans doute un peu plus complexe que la caricature qu'il a lui-même bâtie depuis un bon moment déjà. On va tenter de débroussailler tout ça avec bonne humeur et surtout avec les quatre Eraserhead de la critique réunis ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour.
Yannick Dahan, salut Yannick.
Salut.
Rafik Djoumi, bonjour Rafik.
Salut Thomas.
Stéphane Moïsakis, bonjour Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 87 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Et on va commencer par l'actu récente avant de remonter le fil de la filmo de Lynch avec donc ses premiers épisodes de la nouvelle saison de Twin Peaks, diffusée en partie à la télévision sur Canal Plus en France, présentée donc à Cannes ces jours-ci, 26 ans après les deux premières saisons. Revoilà donc cet étrange objet télévisuel qui avait autant fasciné que repoussé et semé des petites graines un peu partout dans la création de TV américaine, graines qu'on retrouve encore régulièrement. Lynch et Mark Frost, le co-créateur de la série, ont convoqué une bonne partie du cast originel, dont évidemment l'imparable Kyle MacLachlan qui rempile dans son rôle central d'agent Cooper, lui qu'on avait laissé bien mal en point à la fin de l'ultime épisode de 91, assailli par l'esprit maléfique de Bob, le tueur psychopathe. Cooper possédait ce dédoublé lâchant dans la nature un double maléfique, et j'avais oublié de retourner ma feuille, tandis que lui se retrouvait enfermé dans la célèbre Black Lodge. C'est histoire de vous mettre dans l'ambiance. Messieurs, la nouvelle saison nous emmène donc sur les traces de ce fameux jumeau maléfique, mais aussi nous fait découvrir l'existence d'une mystérieuse boîte surveillée par un étudiant, nous promène dans un bled du Dakota du Sud où les habitants meurent de manière assez brutale. Bref, ça ressemble à du Twin Peaks, ça a presque le goût du Twin Peaks, mais est-ce que c'est du Twin Peaks? Alors vous êtes deux autour de la table à avoir regardé ces premiers épisodes. Yannick Dahan qui pouffe déjà de rire. Non, Yannick, est-ce que c'est du Twin Peaks ou pas?
Bah écoute, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Stéphane, on risque de pas être d'accord, mais Stéphane n'était pas forcément un inconditionnel de Twin Peaks. Moi, j'avais 20 ans, donc
j'ai pas tout analysé.
Stéphane
avait déjà 40 ans.
Voilà.
Ça change du coup la perspective.
Moi, j'avais tout suivi, j'avais regardé la série deux fois, j'étais fan, en même temps, j'étais con, j'avais 20 ans, donc excusez-moi, non, c'était un peu ridicule comme réflexion, mais j'étais jeune, quoi. Donc c'est intéressant de se dire 25 ans après, retomber dedans. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est toute la question en réalité. Est-ce que l'idée c'est de prolonger quelque chose qui n'était pas terminé? Et c'était évident parce qu'il avait l'intention de faire autre chose derrière à l'époque. Ou est-ce que ça allait être complètement nouveau? Il y a un peu des deux. Moi, je vais être hyper honnête. Là, je parle avec le ressenti. Je fais pas d'analyse parce que j'ai pas voulu revoir les épisodes précédents. Et je suis quand même resté assez dubitatif en regardant. Cet épisode pilote, enfin ce double épisode pilote, j'avais déjà un truc, c'est-à-dire que je me retrouvais, j'avais l'impression de voir les deux Lynch, c'est-à-dire le Lynch que j'aimais des débuts jusqu'à Twin Peaks, grosso modo, et cette capacité à créer des fois sur la base de rien une atmosphère hyper intrigante, hyper pesante, de créer de la symbolique intéressante, d'avoir des personnages qui sont un petit peu excessifs, décalés. Le souci, c'est que j'y voyais aussi tous les travers du Lynch que je pouvais plus supporter à partir de Mulholland Drive, de l'autocitation, du cryptique pour du cryptique, de la pose pour de la pose. Donc j'ai oscillé vraiment en termes d'émotion. À la fois, je trouvais qu'il y avait à certains moments de très beaux plans, de belles scènes. Autant ça noyait le poisson. Après, ce qui est peut-être intéressant et qu'on va peut-être discuter aussi, c'est la valeur d'un objet télévisuel comme ça aujourd'hui, qui est clairement destiné à des gens qui ont vu la série. Alors, combien même ils vont pouvoir sur Netflix regarder les deux premières saisons.
Je crois que ça fait un peu partie du
ça fait
plan.
Partie du deal, mais je suis pas sûr que la génération d'aujourd'hui qui va découvrir Twin Peaks. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. J'ai quand même eu le sentiment que c'était vraiment adressé aux fans parce que la série débute de manière aussi cryptique qu'elle se terminait à la saison 2 et par rapport à Twin Peaks Firewalk With Me, qui était déjà une espèce de film expérimental, c'est-à-dire c'était une succession de scénettes plus que réellement une structure narrative construite qui avait un sens et qui cherchait à le poser. Donc on rentre quand même dans une série où c'est 25 minutes extrêmement étrange à suivre. Alors j'imagine même pas les gens qui n'ont pas vu Twin Peaks, c'est impossible à suivre. Mais même pour moi qui connaissais bien l'histoire, qui évidemment y voyait des éléments de la série, des éléments du film, je trouvais ça laborieux à se mettre en place. Par la suite, je comprenais un petit peu la direction dans laquelle il prenait, et puis évidemment l'idée est de reproduire le même mystère, sauf que il manque un élément qui est crucial et qui était quand même, on parlera de la douleur de revoir certains personnages d'il y a 25 ans, où ça fait quand même un peu mal au cul.
Les gens vieillissent.
Ça fait un peu mal. Quand tu revois Laura Palmer, ça fait un peu mal au cul, mais bon. Mais il y manque cet élément qui était quand même fondamental et qui était la grande force de Lynch, que ce soit sur Blue Velvet ou Twin Peaks, qui était clairement de partir d'une sorte d'Americana fantasmée, qu'il se plaisait à véroler de l'intérieur, pour en faire ressortir une folie, son horreur, à la fois aussi son absolue beauté, parce que ça a toujours été le contraste entre une innocence absolue et une noirceur totale. Mais tout ce qui fonctionnait dans la première saison de Twin Peaks, c'était quand même ça. C'était qu'on était sur une histoire de crime story dans une petite ville américaine et que petit à petit, on se rendait compte du lourd passif, mais pas que, de personnages qui étaient tout d'un coup un petit peu qui vrillaient. Et c'est cette façon qu'il avait d'amener par sa mise en scène, par sa direction d'acteur, cette petite folie. Cet iconoclasme qui venait casser l'image de départ, que ça fonctionnait et que ça portait sens. Du coup, la symbolique qui arrivait progressivement dans la saison 1 marchait très bien. Elle laissait à l'interprétation du spectateur. Et c'est ça qui était fort, parce qu'on te posait des éléments très concrets. Une Americana, des personnages mystiques un petit peu vrillés. Et du coup, tu pouvais apposer ta réflexion par-dessus. Déjà, la saison 2 ressemblait plus à une espèce de trip psychédélique qui noyait le poisson. Et là, on arrive là-dedans et il n'y a plus ce contraste. Moi, c'est ça qui m'emmerde le plus, en fait, quand je regarde la série. Et qui fait que, même si j'ai apprécié des scènes, j'ai apprécié des ambiances, plus l'épisode avançait, plus ces deux épisodes en un avançaient, plus je m'emmerdais parce que je n'avais plus ce contraste-là. Je suis simplement dans David Lynch qui s'amuse, on pourrait dire, si on veut, à faire n'importe quoi. Je ne crois pas que c'est n'importe quoi, mais qui commence à créer des symboliques qui vont dans tous les sens, qui se perdent dans ses limbes, comme tu disais Stéphane quand on en discutait tout à l'heure, qui se perdent dans des limbes. Et puis c'est malheureux, je finis là-dessus pour laisser parler des gens, pardon. Je parle trop. C'est qu'il y a une micro-tendance à la rationalisation aussi là-dedans, ce qui m'emmerdait. C'est-à-dire que dans la première saison de Twin Peaks, on ne t'explique rien. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est fascinant. C'est toute la symbolique du personnage de Bob, de tout ça. Et ici, on commence déjà d'entrer à te citer la Loge Noire, à te dire le deuxième Dale Cooper est un doppelganger.
C'était déjà explicité.
Dans
la série originelle, si.
À la deuxième saison, la première. Pas la première, tu vois, ça arrivait petit à petit après.
Bien sûr, mais toute la mythologie autour de ces loges, elle était nommée.
Là, ça m'a paru tout d'un coup un petit peu tombé à plat.
Si je peux corriger, je pense pas que c'est du psychédélisme, mais j'appellerais ça plutôt du post-New Age ou de l'anti-New Age. Mais ça, on pourra le développer peut-être à travers la carrière de Lynch.
Dans quelques instants, Stéphane, on va juste entendre l'avis de Stéphane sur ces nouveaux épisodes. Je sais pas si tu as vu les deux.
Ouais, j'ai vu. j'ai vu le double épisode.
Ouais. The Return Part 1 and 2.
Ouais, voilà. Et puis j'ai vu une partie que j'ai arrêtée, j'avoue, au milieu de l'épisode 3, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu marre.
Pas une adhésion franche et massive.
C'est pas ça, c'est tombé hier.
On enregistre ça juste après.
Voilà. Donc je m'excuse déjà auprès des gens, c'est pas du tout. Maintenant, le truc, c'est que moi, je trouve ça très difficile à juger sur la base de Twin Peaks. C'est-à-dire qu'en gros, comme disait Yannick, si on est censé être fan, qu'avons analysé absolument tous les épisodes un par un pour comprendre la symbolique du truc. Ouais, là, effectivement, on va devoir attendre la saison, la fin de la saison, en fait, pour pouvoir donner une vue d'ensemble. Par contre, le truc, c'est que moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que disait Yannick, c'est que effectivement, on parle de David Lynch. C'est-à-dire que il faut quand même rappeler que la raison pour laquelle il y a eu une fin de saison comme la saison 2 sur Twin Peaks et un film derrière qui a été produit totalement indépendant par des Français pour, comment dire, pour entre guillemets boucler la boucle parce que justement il n'y avait pas de saison 3, c'est pour rappeler, en fait je rappelle ça tout simplement pour dire que le David Lynch qui a les pleins pouvoirs aujourd'hui, qui est appelé à faire ce qu'on lui demande à faire, c'est-à-dire ce pourquoi il est connu depuis maintenant 30 ans, c'est pas celui en fait qui avait pas du tout les pleins pouvoirs du coup à l'époque de Twin Peaks, la série originale.
Ils avaient quitté la série en cours de route sur la saison 2 avec Mark Frost.
Ça a été un gros bordel et c'est intéressant de rappeler ça parce que ça va être intéressant d'en parler pour le reste de sa carrière quand on va revenir dessus. Et du coup, en fait, bah, pour moi, ça donne deux approches complètement différentes. Et c'est ce qui, pour moi, me pose problème, en fait. Alors, on peut parler de série doudou, blabla, tout ça, etc., etc. Il se trouve que c'est justifié par un truc très simple, hein, à la fin de la saison 2, ou je crois que c'est à la fin du film, je sais plus. T'as, comment elle s'appelle, Laura Palmer, qui dit à Del Cooper, je te reverrai dans 25 ans.
On se revoit dans 25 ans, oui.
Donc, si t'es fan de la série, oui. Ça semble cohérent que ça revienne 25 ans après. On n'est pas dans les citations à la Jurassic World ou des trucs comme ça automatiquement. Quoi. Je mets ça vraiment dans un truc encore un peu différent. Comme Yannick le disait, je ne suis pas forcément encore une fois hyper au fait de tout Twin Peaks. Hein, je n'ai pas tout vu. En tout cas, voilà. Il y a des choses qui me reviennent en général. Donc effectivement, c'est un peu dur de s'accrocher quand tu regardes la saison 3. Enfin, c'est la saison 3, quoi. Mais le truc, c'est que force est de constater après que si tu analyses ça pour ce que c'est, bah, il y a un moment donné où, bah, c'est pas terrible, quoi. C'est quand même, alors, c'est peut-être un détail, mais le fait de l'emploi du numérique, il y a certains cinéastes, faut pas leur donner du numérique, parce que sinon, c'est tout ce qui pouvait être étrange et décalé et poétique et tout ce que tu veux chez David Lynch à l'époque où, on va dire entre guillemets, c'était de la matière. En tout cas, il arrivait à travailler ça parce que c'est aussi un artiste plasticien. Il faut le rappeler. Donc c'est ça qui est intéressant quand ça se retrouve dans Eraserhead, dans tous ces films-là. Le voir ne pas traiter cette matière-là et la laisser à d'autres entre guillemets, même s'il leur donne des directions, ça donne des trucs beaucoup moins incarnés. Et voir à la limite du ridicule. Tu parlais de cette boîte noire qui fixe. Oui. Bon, outre le fait que la scène elle dure 25 minutes, et à un moment donné, tu as envie de leur dire voilà, l'atmosphère pour l'atmosphère, c'est gentil, mais on accélère un peu. Quand je vois une scène comme ça, et je vais pas la spoiler, mais en gros, j'ai l'impression de voir du Paranormal Activity un peu gore, quoi. Donc, c'est pas. Enfin, il y a aussi ça, en fait. Le truc, c'est qu'effectivement, Twin Peaks, ça a été ce que ça a été à l'époque, parce que c'est arrivé à la télévision à un moment donné où c'était, pas du. Ce type de fantastique, pas décalé, mais un peu,
Hein? Onirique,
voilà, New Age. Mais onirique effectivement n'existait pas, et ça tu peux pas du tout l'enlever à David Lynch. Enfin voilà, et puis même, enfin moi du coup je me suis tapé le double épisode et puis juste après en fait je me suis dit tiens je vais me refaire le pilote d'original. Et putain c'est quand même autre chose quoi. Je suis désolé mais à un moment donné, enfin il arrive à mettre en place des choses dans le pilote en regardant des bouts en fait qui fonctionnent super bien. Il y a une logique un peu entre guillemets. Enfin je vais pas de satire en fait de du soap opéra qui était déjà là dans Blue Velvet hein. Il avait déjà fait ce genre de choses mais qui fonctionne super bien parce que à la base il retient ces codes là il les exploite vraiment en fait. C'est pas du tout quelque chose, il y a pas de décalage vis-à-vis de ça quoi. Là quand je vois la saison 3, j'ai le sentiment et faudra voir ce que ça va donner en fait au fur et à mesure où ça avance quoi. Il y a 18 épisodes je crois. Moi, j'ai vraiment le sentiment de voir soit de l'auto-parodie, soit effectivement de quelqu'un qui a une conscience très spécifique de ce qu'on attend de lui et qui le donne. En fait, donc du coup, il se jette dans. Alors, vous avez envie de voir. On n'a pas encore le. Enfin, moi, j'ai pas encore vu le nain qui marche à l'envers, mais bon, à mon avis, il va pas tarder. Voilà.
Non, enfin, ce ne sera pas le même comédien. S'il a été transformé en arbre.
Je finis là-dessus. Je rebondis juste sur le truc. Ce qu'il dit est très juste dans le sens où il se rapproche plus presque d'un Twin Peaks Fire Walk With Me que de la série, dans le sens où c'est une succession de scènes qui ont valeur à être quasi indépendantes les unes des autres, entre guillemets. Évidemment qu'il y a une trame derrière, mais on les regarde comme des scènes expérimentales. Et l'air de rien, à ce niveau-là, je trouve que dans Twin Peaks Fire Walk With Me, les séquences étaient beaucoup plus intéressantes, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes d'utilisation du son. On se rappelle la scène où ça pète un câble, tu sais, entre l'embouteillage de voiture, le chien qui hurle dans la bagnole, Laura Palmer, le père qui pète. Même si cette scène était une scène qui n'avait que de valeur pour elle-même, elle était hyper intéressante en termes de construction. C'est la même idée dans ces deux pilotes-là, mais évidemment beaucoup moins riche.
Pour boucler, en fait, en gros, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme à l'époque de Mulholland Drive, comme à l'époque de peut-être Inland Empire, ce genre de trucs, ils vont dire ouais, c'est exigeant, c'est David Lynch, machin, etc., etc. Moi, j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse. J'ai l'impression que c'est, enfin, moi, c'est mon sentiment actuel. Hein. J'ai l'impression que c'est pas
feignant.
Du tout exigeant. C'est plus facile quelque part d'écrire ce genre de truc à un moment donné, et surtout pour un mec comme lui, hein, dans l'absolu, c'est plus facile d'écrire ça que de rentrer dans une logique de faire rentrer l'expérimental dont il vient, en fait, dans la narration telle qu'il a pu le faire avec Eraserhead et au fur et à mesure dans sa carrière, quoi.
Ouais, mais justement,
parlons de sa carrière. Rafik, tu es en embuscade.
Yannick faisait remarquer qu'effectivement, il y avait eu un avant et un après Twin Peaks dans la carrière de David Lynch. Et pour comprendre Twin Peaks, il faut comprendre aussi d'où vient la carrière de Lynch et dans quelle direction elle menait. Eraserhead, donc, qui est son premier long métrage. C'est un film qui est considéré historiquement comme le dernier grand midnight movie, puisqu'il a achevé une tradition qui avait débuté dans la fin des années 60, qui était ces séances de minuit où on diffusait des films que les exploitants n'acceptaient pas de passer. Ce sont des séances, c'est ce qu'on appelle, nous en France on appelait ça le film culte. Mais c'était vraiment des séances très particulières, réservées à un public de l'ordre de la contre-culture, et qui baignait jusqu'à la moelle dans l'occultisme le plus total, puisque c'est là qu'ont été découverts les Norman McLaren, Kenneth Anger, qui faisait des courts-métrages avec le fondateur de l'Église de Satan, Anton LaVey, Jodorowsky et ses œuvres pour le coup psychédélique, qui étaient El Topo et La Montagne Sacrée. La nuit des morts vivants de George Romero, de John Waters, et donc David Lynch qui vient conclure en fait cette boucle là et cet héritage de la contre-culture des midnight movies, il va se propager dans le reste de sa carrière, y compris sur des films entre guillemets de commande, puisque Elephant Man par exemple, qui est le film que Mel Brooks va produire pour lui. C'est dans la continuité d'un Freaks de Todd Browning. Et Freaks, c'était typiquement le produit de ces Midnight Movies. Il a été redécouvert par le public des Midnight Movies en tant que film, justement, très ésotérique, très occultiste, etc. Et Blue Velvet, il y a du John Waters dans Blue Velvet. Dans cette façon de regarder l'Amérique avec un regard extrêmement poignant et décalé, mais un John Waters moins rigolard et plus inquisiteur. Sauf que la rencontre avec Frost va, je pense, provoquer une perturbation parce que Lynch, à cette époque, est quand même dans une espèce d'adoration de l'image et du pouvoir, entre guillemets, magique du cinéma. Alors déjà, bon, je précise pour ceux qui nous écoutent qu'à la fin de l'émission, je risque de passer pour un fondamentaliste chrétien du fin fond de l'Alabama parce que j'ai déjà commencé à parler de satanisme et d'occultisme, mais je pense qu'on est obligé de passer par là. En fait, Frost, il a une obsession qu'il a déjà marquée dans des romans qu'il avait écrits avant Twin Peaks, qui est celle de la place de l'Église, de la société théosophique dans l'histoire hollywoodienne. La société théosophique, c'est une société occulte de la fin du XIXe siècle, qui avait été fondée par une Russe qui s'appelait Elena Petrovna Blavatsky, et qui avait donc l'ambition de créer une nouvelle religion mondiale, dont le siège aurait été Hollywood. Et ils se sont installés au tout début du XXe siècle. Là, elle avait eu la vision, en fait, que c'est dans cette place-là que le karma nouveau allait se produire. Ce qui est extrêmement intéressant, si on considère le caractère magique, à tous les sens du terme, que le cinéma va jouer.
La lanterne magique.
La lanterne magique, bien sûr, mais c'est là où on va créer des stars, des étoiles, des espèces de nouvelles divinités, où on va construire des premières salles de cinéma américaines étaient toutes faites sur le modèle des temples, ou presque sur le modèle des temples égyptiens. Il y avait un aspect rituel, en fait, dans la façon d'aller au cinéma et de regarder ces images projetées qui faisaient revivre des fantômes à la lumière. Et c'est aussi ce qui va créer tous ces grands mystères qui vont peupler l'histoire hollywoodienne, fait de choses dégueulasses et sacrées et pourries, du meurtre du Dahlia Noir jusqu'au massacre de Sharon Tate, la femme de Polanski, par des malades mentaux à la fin des années 60. Enfin, on a dans toute l'histoire hollywoodienne un occultisme présent qui va nourrir le fameux Kenneth Anger dont je vous ai parlé, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Hollywood Babylon et qui se voulait un peu la révélation de tout ce caractère ésotérique. Bref. Et la société théosophique, donc, elle joue un rôle central dans la construction du scénario de Twin Peaks par Frost, puisque donc les termes de Black Lodge, White Lodge, Gardien du Seuil sont tous des termes empruntés en fait à la société théosophique. Et donc, du coup, c'est comme si Lynch découvrait dans sa collaboration avec Frost que tout ce qui jusque-là l'avait nourri en termes de rêves magiques révélait un caractère atroce en fait. C'est pour ça que je parle de contre New Age. C'est parce que en gros la société théosophique a plus ou moins annoncé le New Age sur la côte californienne à un siècle d'avance. Et c'est comme si Twin Peaks allait à l'inverse. Enfin, Paco Mtielman, qui est peut-être un plus grand spécialiste de Twin Peaks en France, parle de séries contre-initiatiques. Et c'est d'ailleurs le destin qui attend Del Cooper, hein, puisque donc il va rentrer dans cette loge en espérant justement de cette façon voir la lumière, et il va en ressortir transfiguré dans le pire sens du terme, c'est-à-dire privé de son âme et remplacé par un doppelganger. Et c'est aussi un peu ce qui arrive à Lynch quand il travaille là-dessus, c'est-à-dire tout d'un coup. Son rapport à la magie pure du cinéma devient un rapport au mal atroce qui se cache derrière toute cette opération magique qui a fait le XXe siècle et le cinéma hollywoodien. Voilà, j'ai fini mon tunnel. On va revenir sur ça.
C'était vraiment intéressant.
C'est intéressant parce que toute la dimension, ne serait-ce que bouddhique, du personnage de Del Cooper est complètement, parce que c'est un syncrétisme, hein, la société théosophique. Donc c'est un mélange du bouddhisme, confucianisme, différentes choses comme ça. Ça a inspiré Gandhi. Hein. Donc c'est vraiment très prégnant dans toute la série. Les nazis aussi. Donc ça a donné lieu à toutes les interprétations possibles.
Mais donc, je pense qu'il voilà, il est important de rappeler ce caractère,
le côté noir d'Hollywood, ça infuse vraiment concrètement même les thématiques de ses films suivants.
Mais bien sûr, bien
et notamment
sûr.
De son plus gros bien succès sûr. Public, qui est Mulholland Drive,
évidemment, n'est que ça, entièrement en fait. Posé là-dessus, et le rapport au double dans tous les films qui vont suivre, comme si effectivement il avait traversé le miroir et que c'était son double qu'il avait d'une certaine façon remplacé. Dès Lost Highway, on a un rapport au double qui est traumatisant.
Oui, ce personnage qui change d'acteur en cours de route.
Alors le premier. Faut rendre justice, quand même rendre à César ce qui lui revient. Et je pense que c'est intéressant. Le premier critique à avoir vraiment pas percé le secret, mais avoir compris où Twin Peaks allait aller, parce que c'est bien de remettre un petit peu le contexte. Quand la série a déboulé, moi je me souviens, je suis pas tout jeune, c'était mon premier festival de Cannes. La première fois que j'ai entendu parler de Twin Peaks, c'est parce que un jour les rues de Cannes étaient complètement désertes et on comprenait pas ce qui se passait. Et en fait, tous les Américains étaient rentrés à l'hôtel. Il n'y avait plus aucun Américain à Cannes. Ils étaient tous en train de regarder le nouvel épisode de Twin Peaks, qui devait être le deuxième ou le troisième. Et c'est là où on a réalisé qu'il y avait une série, a priori, complètement dingue, qui les avait tous happés, en fait, vers leur écran de télévision. Et pour en revenir au caractère magique et rituel, il faut quand même noter ça, hein, l'Amérique entière qui, tout d'un coup, se précipite devant sa lucarne, son petit hôtel d'image, pour assister à une atrocité, puisque le premier épisode, c'est la découverte d'un meurtre, et en plus d'un meurtre pour le coup vraiment sacrificiel, hein, d'une vierge, entre guillemets, enfin ce qu'on imagine être une vierge, et d'inviter toute l'Amérique à participer à ce rituel traumatisant. Donc il y avait quelque chose, de maléfique au sens artistique du terme que Lynch mettait en place.
C'est l'air de rien. Je suis complètement d'accord parce que cette notion d'occultisme et tout ça, faut quand même savoir que Twin Peaks, à la base, la série, c'était Lynch et Frost qui s'étaient rencontrés et qui voulaient faire un film sur Marilyn Monroe. Sur l'assassinat mystérieux,
la
mort mystérieuse de Marilyn Monroe, ils n'ont pas pu le faire, et ils se sont dit qu'ils allaient inventer une ville et créer à partir de là. Donc il y a quand même un côté précurseur du conspirationnisme, qui est d'ailleurs le mystère lynchien, fait appel à tous ces éléments psychologiques qui font que on est happé dedans parce qu'on s'est dit qui a comploté tout ça.
Sur cette première saison, on était quand même dans un whodunit, vraiment dans une enquête policière. Oui. Les éléments entre guillemets ésotériques mettent du temps à apparaître. Mais dès le début, donc il y a cet Américain qui s'appelle Tim Lucas, qui était le fondateur d'un magazine extraordinaire qui s'appelait Video Watchdog, un pur magazine de nerd, qui à l'époque était le gros magazine des collectionneurs de laserdisc. parce que c'est le genre de gars qui est capable d'avoir
repéré... Tu es conscient qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est, un laserdisc. On mettra une notice explicative.
Disons qu'il y a des malades du cinéma sur Terre, voilà, mais vraiment malades au sens médical du terme. Voilà, qui remarquent qu'il manque un demi-plan dans un film, hein, et qui le notifient et qui en font des... Voilà, et Tim Lucas faisait partie de cela. C'était leur grand gourou, voilà. Tim Lucas a été le premier à faire de l'exégèse autour de Twin Peaks, c'est-à-dire à comprendre qu'il y avait un réseau de symboles qui n'était pas là par hasard et qui menait dans une direction donnée. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Lucas est le spécialiste mondial de deux autres cinéastes, un espagnol français qui est Jess Franco et l'italien Mario Bava. Ah. Et si il y a deux films de chacun des deux qui sont des films précurseurs de Lynch, que je recommande aux gens qui ne les auraient pas vus. C'est pour Mario Bava, c'est Opération Peur de 1966, Kill Baby Kill en anglais. Et pour Jess Franco, c'est un film de 1970 qui s'appelle Crime dans l'extase. Donc en anglais, c'est She Killed in Ecstasy. Et qui sont deux films, en fait, qui, sur un postulat a priori normal, a priori commun, font rentrer leurs spectateurs dans un monde onirique, cauchemardesque, fait d'images banales, d'une certaine façon, des vieilles dames qui traversent une rue, voilà, une horloge qui s'arrête de tourner, un type qui court après une silhouette, il l'attrape par la main pour s'apercevoir que c'est lui, et on n'a jamais d'explication à ce qui vient de se passer. Et le fait que Tim Lucas, qui soit le spécialiste de ces deux réalisateurs, qui étaient des réalisateurs qui ont glissé dans leur carrière vers une forme de folie, hein, il faut le dire, oui. Bava notamment, et, oui. notamment ait été le premier à repérer que l'aspect malfaisant de la série Twin Peaks, d'une certaine façon, dans ses articles, il adorait ça, hein, mais dans ses articles, il était en train d'annoncer à l'Amérique, attention, on est en train de participer à un rituel au sens le plus sacré, le plus ancien du terme. Et ce rituel, il est purement contre-initiatique, il mène vers une dissolution, quoi. Il y a comment dire un amour que Lynch a pour la télévision, qui, je pense, n'a pas toujours été compris par les gens si on ne remet pas cette idée du caractère malfaisant de l'image. La chambre rouge, où se passent pas mal de scènes oniriques de Twin Peaks, c'est un plateau de télé. C'est-à-dire elle est mise en scène comme un plateau de télévision, avec le canapé là, le présentateur qui a et Del Cooper est l'invité d'une certaine oui. façon de cette émission. Et Lynch a souvent mis en avant son goût pour le cauchemar qui se cache derrière ces images-là. Il y a une réplique d'ailleurs que j'adore du présentateur de la Roue de la Fortune, Pat Sajak, qui avait dit un jour, je vais le dire en français, un jour quelqu'un s'approchera trop près du poste, je le tirerai par la main, il me rejoindra dans mon enfer. Et ça, c'est la réplique lynchienne par essence, quoi. L'image projeté dans son salon ou projeté dans un temple, salle du cinéma, n'est pas innocente. C'est un monde double.
Le film débute ouais. là-dessus. Le film, ouais. le Twin Peaks Firewalk With Me débute sur du grain, sur de l'image, enfin, je veux dire, de l'image télévisuelle, ouais.
Ah, c'est le logo, enfin, oui, l'image brisée de qui débute la série. Non, enfin, la télé brisée.
Si on parlait de Lynch, ce serait peut-être intéressant qu'on laisse parler Stéphane et Julien.
Julien, j'aimerais bien.
Sur juste Julien la bascule dans la carrière.
Le prêche apocalyptique de
c'est dur de passer après ça.
Merci Yannick de faire mon travail à ma place.
Moi, c'est un enfant de la banlieue, en fait, Lynch. Je le rapprocherais presque, parce que j'ai rarement entendu ce parallèle, moi je le rapprocherais presque de Burton, ouais. peut-être même de Spielberg, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que c'est le produit du dysfonctionnement de la banlieue américaine, qui est une espèce de d'idylle comme ça sociétale dans laquelle la famille doit être capable de s'épanouir. Il y a un vrai aboutissement, en fait, quand on a notre pavillon là-bas et on est dans un mode de vie parfait. Il y a Spielberg qui a une expression là-dessus que j'adore et qui peut, il me semble, complètement s'adapter au cinéma de David Lynch, qui est il parle de l'anesthésion de la banlieue. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu, qui a grandi là-dedans et qui a, à cause de sa sensibilité, d'événements familiaux aussi particuliers, perçu en fait le dysfonctionnement derrière cette surface complètement lisse. Et je trouve que c'est là en fait qu'il est, enfin c'est une des un des domaines où il est le plus fort, en fait. C'est-à-dire de montrer comme ça quelque chose de parfait, puis d'aller dans le détail et d'essayer de déplucher petit à petit ce qui va et ce qui ne fonctionne pas, quoi. Après, sur la carrière de Lynch, moi, je vais être plus prosaïque que Rafik, mais moi, j'ai un peu l'impression que Lynch devient pas intéressant quand le film de David Lynch devient un genre en soi et qu'il œuvre là-dedans, en fait. Je trouve
il
que...
Il cède à l'autocitation et l'autoparodie.
Oui, voilà. Il y a Eraserhead qui est presque un cas à part parce que c'est un film qui avait un besoin impérieux de sortir, je pense. Hein.
Bon, est-ce que pour l'anecdote, on peut rappeler quel est son titre français?
Labyrinthe
Man, puisqu'il est sorti en France après Elephant Man.
Voilà, c'est pour faire une connexion avec Elephant Man.
Nom de Dieu. Déjà à l'époque, les producteurs français étaient redoutables.
Ça montre aussi que David Lynch n'a pas été pour les critiques et les médias français David Lynch tout de suite.
Non,
quoi.
Non.
Au départ, c'était juste bon.
C'était le mec de Labyrinthe Man.
Ça a même été David Lynch très très tardivement. Moi, je me rappelle. Enfin, moi, je le situe même s'il a eu la Palme d'Or pour
C'est l'heure et Lula.
C'est l'heure et Lula. Déjà à l'époque, ça avait été extrêmement décrié. Ça avait été très très mal vu par pas mal de gens. Bon, le film Twin Peaks est passé à Cannes aussi derrière. Ça a été un four en salle, un
ça
four aux États-Unis, ça s'est fait huer. Du coup, Lost Highway.
La sacralisation, c'est vraiment Mulholland.
C'est ce que je pense parce que moi j'étais à Cannes au moment où c'est sorti, et c'est le seul film que j'ai pas pu voir, malgré avoir fait la queue trois fois pendant une heure et demie, en fait, avant de pouvoir rentrer. C'est là où tu te rends compte, enfin. Il faut quand même dire que on va faire un peu de désacralisation, mais il faut quand même dire quand même que la critique à la base, et j'imagine surtout la critique française, bah en fait, contrairement à ce qu'ils pensent, ils ne sont pas précurseurs donc de au cinéma, ils fonctionnent comme le public en fait, aussi simplement. La seule différence avec le public, c'est qu'ils sont persuadés d'être au-dessus. Donc du coup, voilà, c'est quand
c'est
on se retrouve.
Exactement ça. Voilà. C'est très bien dit, Steph.
Non mais attends, et le du coup en fait, je me suis rendu compte dans ma carrière en fait de journaliste qu'à chaque fois que j'allais à une projection de presse et que c'était mais juste blindé de chez blindé, je me suis dit ok, le film il va cartonner. Et c'était des films comme Le Pacte des Loups, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, ce genre de trucs. Donc voilà. Et on revient donc à Mulholland Drive qui était pareil blindé, mais de chez blindé. Et qui a été, comment dire, non seulement le succès, puis surtout le succès critique, en fait.
Voilà, quoi. On peut parler même mecs qui déchiraient les frères Cohen quand ils ont fait leur premier film et tout ça. Hein, on le rappelle quand même. Voilà. Enfin, bon.
Et le truc qui est intéressant, c'est que donc, en fait, malgré tout ça, aujourd'hui, on a cette espèce d'aura, effectivement, de David Lynch qui est l'auteur par excellence, en fait. Mais par exemple, un film comme Mulholland Drive, il faut juste rappeler ce que c'est à la base, en fait. C'est un pilote de série télé. Que la chaîne a refusé à l'époque et que des producteurs français ont récupéré. On dit à David Lynch, on te rajoute une petite somme au bout et tu nous finis ça et on fait ça, on le sort ça comme un film, quoi. Et du coup, c'est pour ça que le film, enfin moi personnellement, je trouve imbitable. Parce que déjà, t'as les citations cinématographiques hitchcockiennes, Le Blond, La Brune, tout ça, etc., etc. Mais c'est un film qui, moi, je trouve personnellement d'une pauvreté de mise en scène assez, assez flagrante. Hein. Enfin,
c'est important, je pense, de noter.
C'est ce qui n'est pas le cas. Moi, j'aime pas Lost Highway, mais ce n'est pas le cas de Lost Highway. Lost Highway, c'est un film qui est quand même plutôt léché visuellement. Et là, ce n'est pas du tout le cas. En fait.
Et Inland Empire, on ira encore plus loin.
C'est
un abandon de la forme. Hein.
Voilà.
Non, mais il y a un abandon de la forme. Ah bah, effectivement, on parle de quelqu'un qui est un amoureux des images. Enfin, la photo de
Stéphane rappelait que c'est un
plasticien. Elephant Man, tu fais un arrêt sur image à n'importe quel moment du film, t'as un putain de tableau, quoi. C'est stupéfiant. Et effectivement, après Lost Highway, comme tu le dis, il y a un abandon de la forme, mais qui, moi, je pense, est lié aussi à ce rapport à son propre double. Hein. Je pense qu'il y a eu un traumatisme qui s'est produit durant Twin Peaks, parce que Twin Peaks Firewalk with Me, t'as déjà l'effet télévisuel marqué dans la mise en scène.
Mais ça, à la limite, tu pourrais lui dire qu'il a essayé de raccrocher les wagons par rapport à la série, ce qui est pas idiot en soi. Tu peux pas faire un truc complètement déformé. Mais là, le truc avec Mulholland Drive, je suis désolé, mais je vais être méchant, mais à un moment donné, quand on en arrive à perdre tellement la forme qu'on n'arrive pas à raccorder un champ contre champ, c'est qu'il y a un vrai problème c'est pas normal de la part de David Lynch, et surtout c'est pas normal que la critique remarque même pas ça par rapport au reste de sa carrière, quoi. Et je termine. Du coup, il faut aussi comprendre pourquoi le film est complètement déséquilibré, quoi. C'est ce que c'est la vérité aussi, c'est-à-dire que t'as une dernière demi-heure où tu bascules dans le symbolisme à la David Lynch. Parce que t'as l'impression que c'est précisément ce que les producteurs lui ont demandé. C'est fais-nous un beau film à la David Lynch, là, tu vois, comme ça, avec des petits lilliputiens qui sortent du sac de la vieille.
On sait que c'est pas propre à. c'est pas propre à David Lynch, ce côté, c'est, enfin, évidemment, c'est névrotique de base, mais on dit la même chose sur Cronenberg, on dit la même chose sur Romero. C'est-à-dire, à partir du moment où ces types-là ont été institutionnalisés par une certaine forme de critique, par une certaine forme de système muséifié qui, tout d'un coup, faisait prévaloir le sens, sur tout le reste, sur le cinéma. C'est-à-dire, le sens prévalait sur le cinéma. Moi, quand je vois Cronenberg,
l'apparence.
Alors l'émission n'est pas sur Cronenberg, donc on va pas partir à là-dessus.
Oui, l'apparence de sens, je suis d'accord. Là, à part Cronenberg, qui est un cinéaste extrêmement analytique, extrêmement intellectuel, encore que au début, on peut se poser la question. Lynch et Romero sont des mecs purement sensitifs. C'est des mecs, enfin, c'est un plasticien quand même à la base. Lynch, c'est un mec qui exprime à l'image qu'il exprimait sur ses tableaux. Faut quand même pas déconner. Ces mecs-là, on a commencé à leur dire, mais c'est génial, le sous-texte que vous avez dans votre truc, il est incroyable. Incroyable, il est magnifique. On les pignole dans des festivals de merde à la con. Et au bout d'un moment, les mecs se disent, oh putain, qu'est-ce qu'on est intelligent, on est tellement brillant. Alors attends, dans mon prochain film, je vais leur apporter quelque. Et c'est, tu regardes les Romero pré je me fais pignoler, les Cronenberg pré-existence, les Lynch pré-Lost Highway. C'est des cinéastes qu'on a aimés, c'est des cinéastes qu'on adore. Ouais, mais... Et tout d'un coup, t'as l'impression d'avoir des espèces de connards prétentieux qui disent non mais le cinéma, excusez-nous, on a des choses plus importantes à dire. Elle va te faire foutre.
C'est marrant parce qu'ils suivent le même parcours en plus, quoi. C'est-à-dire que sur Lost Highway, tu pourrais approcher presque de Existence, par exemple, ou de Mars Attacks chez Tim Burton. C'est que c'est peut-être des films qui sont pas désagréables à regarder, etc. Mais c'est des films qui tournent à vide, en fait, déjà.
C'est le moment où ils lâchent la rampe.
Ils ont conscience d'eux, ils ont conscience surtout qu'on va les regarder, ils ont conscience qu'on les attend. Ils ont plus besoin de communiquer, ils ont plus besoin de s'ouvrir au monde, en fait, à ce moment-là.
La vérité, c'est que quand tu regardes les films de David Lynch, on va dire, avant cette période-là, même si tu as une logique expérimentale, comme dans Eraserhead, peut-être moins dans Dune et dans Elephant Man.
Dune, qui a un problème en soi, on va dire.
Ouais, moi, c'est un film c'est encore un de ces films où, voilà, c'est la démonstration qu'effectivement, encore une fois, comme l'a dit Rafik, David Lynch n'était pas David Lynch.
Oui, bien sûr.
Il n'est pas né David Lynch, le grand auteur, quoi. Parce que c'est encore un film qui s'est fait souffrir par le producteur, qui a été un bide aussi en salle, voilà. Donc le truc, c'est que il y avait cette logique, en fait, d'utiliser le cinéma expérimental, tel qu'il peut se pratiquer aujourd'hui, même si tu vas au MoMA ou ce genre de choses et tout, et d'essayer de l'inscrire dans une narration, c'est-à-dire que le sens, en fait, que le film est, c'est aussi le sens de l'histoire qu'il raconte, en fait. C'est-à-dire que c'est pas complètement déconnecté. Quand tu regardes Sailor et Lula, c'est pas déconnecté. Certes, tu peux partir du principe qu'il y a des bizarreries, des décalages, des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout déconnecté de ce que ça raconte, en fait.
Le sentiment. Eraserhead aussi, d'ailleurs. Eraserhead, t'as un film.
Exactement. Moi, quand je vois Mulholland Drive, Lost Highway, c'est vraiment Mitch. Non, mais j'ai des problèmes avec le film, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins des choses sensorielles, en fait, qui sont assez fortes encore. Et certes, on peut considérer que ça tourne un peu à vide par rapport à ce qu'il fait d'habitude, mais il y a quand même des choses encore. Mulholland Drive, c'est la flûte. Mais c'est surtout, voilà, encore une fois, c'est que c'est littéralement scindé. C'est-à-dire, t'as 2 heures d'épisode de télé, quoi, et puis une demi-heure de...
C'est sûr qu'il a abandonné toute une recherche. Je dirais deux cinéastes pour rentrer dans autre chose. Moi, je suis pas sûr qu'il soit.
D'ailleurs, il s'est même très détaché du cinéma ces dernières années.
Mais je pense pas qu'il soit aussi, j'allais dire cynique, mais aussi qu'il ait le cerveau aussi flingué que Cronenberg par l'acceptation critique et publique. Je pense que simplement il a laissé tomber quelque chose. Il y a une recherche qu'il avait dans le début de sa carrière, qu'effectivement, à un moment donné, il a lâché l'affaire. Mais quand il se retrouve dans l'obligation de, justement, comme le dit Julien, de retourner vers le public, c'est-à-dire d'essayer d'amener le public à son univers, il est encore brillant. Moi, je trouve que un des meilleurs épisodes de David Lynch n'est pas réalisé par David Lynch, c'est dans la saison 3 de Louis, la série de Louis C.K. Oui. Il joue un personnage qui s'appelle Jack Dahl. Parce que pour résumer, le personnage de Louis C.K. doit reprendre un énorme show télé. Il a jamais fait de télé et il doit se faire coacher.
Il remplace Letterman. Voilà,
ouais, c'est ça. Il remplace Letterman. Tout à fait. Et il doit se faire coacher et on lui propose ce coach, paraît-il extraordinaire, et donc est joué par David Lynch. Et ça donne lieu à des séquences qui se voudraient cocasses et qui sont terriblement malaise. Cauchemardesque, un malaise absolu. Quoi. C'est, on a l'impression de retrouver la marâtre de Suspiria, mais le sérieux avec lequel il l'oblige à appréhender ce qui va se passer. Tu te dis, mais le mec, il va faire la télé, il va faire le comique à la télé, what the fuck is this? Non, pas what the fuck is this, c'est Lynch. La télé chez Lynch, c'est la loge noire, quoi. C'est le monde du double de désincarné. C'est cette fameuse réplique que je vous ai sortie tout à l'heure du mec du Roue de la Fortune, quoi. Vraiment. On se retrouve avec un glissement de terrain, mais bien amené, en fait, dans la série, où tout d'un coup, pendant deux épisodes, on se dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, au fond de nous, on sent qu'il a raison, on sent qu'il y a quelque chose de maléfique qui pulse derrière cette télévision.
Mais c'est pas la démonstration qu'on peut récupérer son style et en faire un peu le refaire en fait quelque part, parce qu'il y a des images en fait qui proviennent des
films. Oui, bien sûr, mais comme j'insistais en fait sur l'idée de Julien d'être obligé d'aller vers le public, de le reséduire. C'est pas que le public soit fermé à toute proposition nouvelle ou un peu ésotérique. C'est simplement qu'il faut lui indiquer un chemin.
Sympa. Oui, Stéphane.
Il y a un truc intéressant à dire sur le nouveau Twin Peaks aussi, c'est peut-être un détail, un peu particulier, c'est qu'il faut se rappeler que l'année dernière, au moment où ils étaient censés lancer la prod de la série, en fait, David Lynch a arrêté littéralement la prod parce qu'il n'était pas content de son salaire. Et bon, après ça, c'est des querelles, on va dire, de boutiquiers à Hollywood, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'un type comme David Lynch, qui n'a pas fait de film depuis 10 ans, n'est pas financièrement parlant un réalisateur bankable au sens propre du terme, quoi. Il n'a pas un blockbuster derrière lui, on va dire, ni même un succès surprise énorme, est capable en fait de faire arrêter complètement la série qui lui appartient, évidemment, hein, en l'occurrence, parce que c'est difficile de faire ça sans lui, et d'obtenir gain de cause, c'est-à-dire une augmentation, je crois, substantielle en fait, hein, sur 18 épisodes. C'est quand même pour moi, hein, la démonstration que le type est complètement arrivé à tout ce travail. En fait, il est arrivé au terme de tout ce travail en fait de reconnaissance critique, qui, à mon avis, moi, effectivement, plombe complètement son cinéma. Là, je vois des images d'une histoire vraie.
Pour ceux qui nous écoutent sans les images, qu'il y a des images qui passent derrière nous.
Mais ça, c'est intéressant. C'est un film qui a été fait entre Lost Highway et Mulholland Drive. Et c'est un film qu'on a tendance à complètement oublier.
On n'a pas mentionné une seule fois depuis le début.
Bien sûr, mais parce qu'il échappe complètement au reste.
À la logique, en tout cas, à l'image qu'on en a.
Voilà.
Et c'est une issue de secours qu'il aurait été intéressant, en fait, de creuser, en fait, comme Sam Raimi d'ailleurs l'a fait à une époque, et qui aurait pu revitaliser en fait ce qui était en train de mourir. Hein,
voilà, je pense, et ça, c'est un film qui, pareil, en fait, ça a été présenté à Cannes, mais c'est passé complètement inaperçu parce qu'il y a. Ça ressemble à Blue Velvet. Ça ressemble à ça.
Mais il faut creuser un peu. C'est pas du Lynch sous vide, quoi. Voilà, en fait. C'est ça le problème.
Et le truc, du coup, c'est que je pense que l'idée que on considère un film, par exemple, comme Mulholland Drive, on en revient là. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment le divorce absolu, quoi. En tout cas, avec le cinéma d'avant, plus encore que Twin Peaks et tout ça, même si je comprends tout ce qui a été mis en avant, c'est l'idée que je pense que lui-même, David Lynch, il peut pas ne pas se rendre compte qu'en fait, en gros, il a fait quelque chose qui est de l'ordre de la rustine, du rafistolage total, et que tout le monde l'a porté au nu en considérant que le film est une émanation ultra cohérente de ce qu'il est capable de faire, alors que en gros lui-même sait comment ça s'est fait. Et du coup, je pense qu'il y a l'abandon, il passe par là aussi, quoi, en fait. Et effectivement, enfin, un mec comme David Lynch faire un film comme Inland Empire qui ressemble à un Colin Serrault, enfin, ça va, à un moment donné, il y a c'est filmé en DV, c'est dégueulasse. Enfin, moi c'est comme Coppola qui fait Twixt, je lâche l'affaire, je me dis c'est pas possible, clair. Le mec a fait le pari, il peut pas faire ça.
La part de fantasme, depuis hier, je suis déjà tombé sur deux articles dont Le Point qui est en train de marquer déjà David Lynch au sommet de son art sur le troisième de Twin Peaks, c'est là tu dis, ils ont fumé la moquette.
Les articles sont presque écrits avant que les articles sont écrits avant que les épisodes soient diffusés.
Ah, c'est intéressant,
bien sûr.
C'est intéressant.
Julien, tu vas dire un mot et ce sera notre conclusion.
Je voulais dire que si vous avez si le divorce avec Lynch est effectif aussi chez vous,
t'es en train d'amorcer les recos là, c'est ça?
Non, alors, parce qu'on a des recos aussi pour là.
Un petit peu, mais...
Alors bon, bah je vais faire ma reco tout de suite, si tu le permets, Thomas. Il y a un espoir. Enfin, c'est pas un espoir, mais ça peut être un palliatif en fait au fait que Lynch puisse manquer aujourd'hui. Qu'il y a un documentaire qui est sorti en salle en octobre dernier qui s'appelle The Art Life, qui a été monté notamment en Kickstarter, je crois. Et alors, c'est Lynch qui espignole pendant tout le film. Hein. C'est une espèce de monologue intérieur alors qu'il est en train de peindre, etc. Alors, c'est curieux parce qu'il a à la fois extrêmement conscience de qui il est. Donc, c'est un très beau travail d'auto-analyse. On se dit, bon, bah, finalement, quand un artiste en est là, est-ce qu'il peut encore créer? Est-ce qu'il peut être encore... est-ce que son œuvre peut encore donner quelque chose? Justement, je pense que c'est là tout le problème. Mais il n'empêche que c'est super intéressant parce que c'est Lynch qui parle de sa vie juste avant le cinéma. Ça s'arrête avec le tournage de Eraserhead. Et on voit en germe et on décode en germe tout ce qui va irriguer et nourrir en fait son cinéma ensuite. Et voilà, c'était Steph, non, c'était Rafi qui parlait de l'épisode de Louis. Mais ça, je pense que ça aussi, il y a encore quelque chose à tirer de David Lynch.
David Lynch n'est peut-être pas terminé. Yannick, je suppose non, que tu n'as pas de reco, ouais, ça m'aurait étonné. Rafik.
J'en ai quelques-unes. Ah, je vais essayer de faire vite.
Alors, vas-y.
J'ai cité Paco Mtielman comme, je pense, le spécialiste français de David Lynch, donc avec son bouquin La main gauche de David Lynch, paru en 2010. Par rapport à cette histoire de rapport entre le cinéma et la magie, je recommande vivement un essai de 1956, hein, ça ne nous rajeunit pas, d'Edgar Morin qui s'appelle Le cinéma ou l'homme imaginaire.
C'est le même Edgar Morin ?
C'est le Edgar Morin.
Ah ouais, c'est le Edgar Morin.
Qui a fait donc un essai d'anthropologie sociologique sur le rapport entre la pensée magique et le cinéma. J'ai cité Hollywood Babylon. De Kenneth Anger, là c'est plutôt si vous avez envie de vous salir et de détruire à tout jamais l'image d'Hollywood à vos yeux. Et enfin, je citerai un long métrage produit en indépendant en français qui s'appelle La vie rêvée de David L. De Julien Pichard et Paul Lay, qui est une tentative d'imaginer ce qu'a pu être la jeunesse du jeune David Lynch et qui aurait jeté les fruits. En fait, c'est un peu le George Lucas in Love version David Lynch. Voilà.
Stéphane.
Bah, alors, si vous aimez C'est l'heure et Lula, bah, sachez qu'il y a une suite, pas tout à fait officielle, qui est Perdita Durango,
qui est 100 fois mieux.
Qui revient, voilà. moi j'aime beaucoup C'est l'heure et Lula, mais effectivement, je préfère largement Perdita Durango, qui est réalisé par Alex de la Iglesia, je pense, vous pouvez le trouver le Blu-ray espagnol, il me semble qu'il est sous-titré français, c'est une version complète.
Ouais, attention, parce qu'il y a plusieurs versions du film, dont des versions ultra cut.
Voilà, mais celle-là, elle est complète, justement, la version espagnole. En France, il était sorti en vidéo, il était cuté. Aux États-Unis, c'est un enfer. C'est un film. Alors, moi, je trouve effectivement infiniment supérieur à Celoria, même si, encore une fois, j'aime beaucoup Celoria. Adapté de Barry Gifford aussi, sur le personnage, en fait, qui est interprété par Isabella Rossellini dans l'original, et qui est là interprété par, j'ai oublié son nom,
Rosie
Perez, qui était dans Do the Right Thing de Spike Lee. Et moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre qu'il faut avoir eu la chance,
jamais sorti en salle,
qu'il faut avoir eu la chance d'avoir vu en salle, comme c'était notre cas. Tu te rappelles, Rafik, on l'avait vu à une soirée spéciale
à l'étrange festival.
À l'étrange festival, et c'était...
Vous êtes super émouvants tous les deux.
Mais tu sais quoi, je rêverais de revoir.
On a essayé de récupérer une copie. On voulait faire une soirée Beats avec des films difficiles ou impossibles à voir en salle. Et moi, je voulais absolument passer Perdita Durango. Voilà, on n'a pas réussi à mettre la main dessus.
On passe un appel. Yannick, tu voulais faire une reco, finalement, t'en as eu ?
Je te fais pas de reco, mais si, je suis une roue. On n'a pas parlé fondamentalement de Dune, et Dieu sait que pourtant, il cristallise beaucoup de choses par rapport à David Lynch, et qui est un film qui n'a même pas la peine de parler des défauts, des problèmes, on les connaît tous, mais qui, malgré tout, est très attachant pour moi, parce que je trouve qu'il y a quelque chose... Ouais, traumatisant peut-être, mais moi j'y ai trouvé des choses galvanisantes que je n'avais jamais vues dans d'autres films de David Lynch. Malgré toutes les, il s'essayait à quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant, bien évidemment, en y amenant sa folie, mais en essayant de rentrer dans une logique narrative qu'il ne savait pas forcément faire et réussissant par moments à être très galvanisant. Et pour finir, j'irai dans le sens de ce que disait Rafik par rapport à peut-être sa haine à un moment donné de la télévision qu'on peut aussi propulsé
c'est
vers ça.
Une fascination.
Une fascination. Et aussi, par rapport à ce qu'on pouvait dire de lui, moi, je trouve ça quand même assez génial que dans la série Twin Peaks, qui pour moi reste fondamentalement ce qu'il y avait de mieux chez Lynch avant le reste, il joue un personnage, il joue un agent du FBI qui n'entendait pas et qui était obligé de gueuler et que tout le monde lui parlait. Il faisait... Et je trouvais que c'était assez symbolique du bonhomme à ce moment-là. Voilà.
Très bien. Merci Yannick d'avoir enfin fait une reco dans cette émission. C'était la première fois, c'est très émouvant. Si je puis me permettre, moi, une reco perso, une fois n'est pas coutume, je recommande non pas un film ni une série de Lynch, mais un disque Blue Bob par Lynch et son camarade John Neff. C'est pas ultra évident d'approche non plus, mais moi je l'adore cet album. J'ai le souvenir qu'à l'époque, en 2002, la critique de Télérama avait décrit ça comme du Led Zeppelin mixé à travers un oreiller. Et c'est assez vrai, mais c'est assez bien. Voilà, vous jugerez sur pièce. Mais notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Julie à la technique. Merci à l'antenne Paris, au public qui nous a écoutés pendant ces 45 minutes. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez grâce à iTunes, faites-nous plaisir à peu de frais en laissant un commentaire et surtout en nous donnant un tout un tas d'étoiles. Ça n'a l'air de rien, mais ça nous aide. Un grand merci d'avance et on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.